On l'a dit Pygmalion, on l'a dit muse, mécène, mentor, ami, agent des plus grands. On en parlait toujours pour mieux parler d'Yves Saint-Laurent, de Cocteau, de Buffet, de Giono, de Mitterrand. Lui, il disait volontiers qu'il préférait qu'on ne parle pas de lui, qu'il était un artiste manqué, qu'il se contentait de les accompagner. Il était cette figure de l'ombre autoproclamée dont le nom était destiné à disparaître des livres d'histoire au profit de ceux qui l'avaient fait, Pierre Berger. Ce qui frappe, c'est cette tension quand même entre sa volonté de toujours s'effacer et puis l'image aujourd'hui du héros en grand dans les journaux, cette tension entre l'homme de l'ombre et l'homme éclairé qu'on entendait souvent commenter l'actualité à la radio, cette tension que l'on trouvait déjà dans ces si belles lettres à Yves, intimes et pourtant imprimées, noir sur blanc, livrées en pâture à tous les curieux. Je l'ai, ce livre, sous les yeux. Et toute sa beauté réside, je crois, dans ces nuances paradoxales d'ombre pudique et de lumière prestige. Quand il écrivait « Je suis allé m'asseoir, j'y vais chaque jour, devant le mémorial que j'ai fait élever pour toi. Il y a beaucoup de touristes, de visiteurs. Certains prennent des photos, ils ne me dérangent pas. Je suis heureux qu'ils lisent ton nom, qu'ils pensent à toi. C'est ce que j'ai voulu. C'est tout un art d'élever un monument à la gloire d'un disparu. »
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Que disent mes invités d'aujourd'hui de la lumière faite sur l'ombre, elle qui ressuscite à quatre mains la figure de leur arrière-grand-mère Gabrielle Buffet-Picabia, une femme qui fut bien plus que l'amie et inspiratrice de Duchamp, Apollinaire, Stravinsky ou Picabia, une femme qui, grâce à leur très beau texte, sort des marges pour revenir au cœur de l'histoire. Bonjour Anne et Claire Verest.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qui est fascinant pour vous, jeune romancière, écrivaine, dans la figure de Pierre Berger?
Pierre Berger, c'est surtout un couple mythique avec Yves Saint-Laurent, un peu d'ailleurs comme Gabrielle Buffet et Francis Picabia, couple mythique dans les deux cas. Hommes et femmes de l'ombre, Pierre Berger et Gabrielle Buffet, et très souvent derrière les immenses génies, il y a des cerveaux qui font accoucher, qui organisent, et dans les deux cas, voilà, ce sont des gens très très importants.
Vous comprenez, vous, qu'on puisse vouloir rester dans l'ombre de quelqu'un ?
Dans le cas de Gabrielle, ce qui est très particulier, c'est que bon, elle vit à une époque où les femmes sont à une place secondaire. Elle, qui est une femme extrêmement libre, qui se fait fi de tout, comprend que rester dans l'ombre, au fond, c'est avoir le pouvoir.
Oui.
Et en ça, elle est d'une intelligence très un peu hors norme.
Et vous écrivez quand même que contrairement à ce que font les gens, elle a réécrit sa légende pour se retirer de l'histoire, pour s'effacer de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Oui, non, c'est quelque chose qui nous a fascinés. Plus on cherchait sur elle, plus on se rendait compte qu'elle-même avait effacé ses propres traces.
Oui.
Elle n'avait pas besoin de l'ego d'être dans la lumière. Elle laissait les hommes jouir de cet ego-là.
Alors, du coup, on peut pas s'étonner que son rôle si décisif, hein, dans l'histoire de l'art, vous le racontez, elle sans qui il y aurait eu, en réalité, ni Duchamp, ni Picabia, ne soit jamais mentionnée dans les livres d'histoire.
Alors, il y a effectivement le fait qu'elle ait voulu s'effacer, mais il y a autre chose. C'est qu'au XXe siècle, l'histoire de l'art a été écrite par des historiens de l'art qui sont des hommes.
Oui.
Et on a remarqué que quand même, les femmes disparaissaient un peu des livres d'histoire. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle elle, qui n'était pas une femme muse, qui n'était pas une femme modèle, qui n'était pas une femme que l'on peint, mais celle qui pensait le tableau, elle n'était pas dans une case dans laquelle les historiens de l'art pouvaient la mettre. Et donc,
oui.
Hop, elle a disparu.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les spécialistes aujourd'hui, de Duchamp ou de Picabia ? Ils disent quoi de Gabrielle ?
Quand on en a rencontré beaucoup, et quand on prononçait le mot Gabrielle Buffet, leurs yeux aussi s'allumaient. On voyait bien qu'ils étaient au courant que cette femme avait été un maillon essentiel dans notre histoire de l'art moderne. Et tout d'un coup, ils disaient, mais c'est vrai, on n'a jamais écrit sur elle. Et on a senti l'excitation
Et parfois même de la jalousie.
Oui.
Comment on fait pour écrire, pour déterrer, ce sont les mots que vous employez, l'histoire de quelqu'un qui a tout fait pour s'effacer? Parce que du coup, je suppose que c'est plus difficile de trouver.
C'est 3 ans de travail, alors bibliothèque, le fond des musées, beaucoup de correspondances, mais il se trouve aussi qu'on a retrouvé une maison qui avait été la maison de Gabrielle Buffet, au cœur du Jura, au milieu des montagnes, qui avait été fermée pendant presque 50 ans. On l'appelait le musée, c'était un couple de fermiers qui gardait cette maison. Et dedans, dans les tiroirs, des lettres, des photos, la trace des fantômes de Gabrielle, mais aussi de Apollinaire, Duchamp et Picabia qui sont allés là-bas.
Autant de réservoirs d'histoire, en fait, les sœurs Berest.
Absolument.
On peut aussi écouter sa voix, la voix de votre arrière-grand-mère dans une archive qui a 40 ans, c'était sur France Culture, et Gabrielle Buffet-Picabia avait 96 ans.
Je dois dire que moi-même, faire marcher ma vie familiale avec Picabia était un phénomène. Enfin, je n'arrivais pas à cadrer, il fallait que je sépare la vie sphère familiale, l'ami de mes enfants, et l'ami de Picabia, qui ne s'intéressait absolument pas à ses enfants. Et je pouvais assumer les deux choses, mais c'était quand même épuisant. Et j'avais très souvent recours à Marcel pour venir distraire Picabia, qui ne pouvait pas être seul. Alors, ils étaient très contents, tous les deux, et moi, je me donnais le temps d'aller m'occuper des enfants, qui étaient d'ailleurs des enfants très délicats, car, au fond, nous aurions mieux fait de ne pas en avoir d'enfants, que peut-être, enfin...
Qu'est-ce que vous entendez?
Oh là là!
Sœur Bérest.
En fait, la vérité, c'est que Gabrielle Buffet, au début du XXe siècle, elle décide, elle affirme qu'elle n'a pas l'instinct maternel.
Oui.
Et que non seulement elle n'a pas l'instinct maternel, mais qu'elle n'en a aucune culpabilité. Et en ça, c'est une femme extrêmement moderne. Et donc, bon, elle dit là dans l'extrait que Picabia ne s'occupait pas de ses enfants.
Et qu'elle aurait
pardon,
mieux fait peut-être de pas en avoir.
Non, mais pardon, elle non plus ne s'en occupait pas. Et entre parenthèses, quand elle parle de Marcel, il s'agit de Marcel Duchamp, qui vient pour distraire. Et non seulement il vient pour distraire, mais c'est quand même lui qui a accouché de notre grand-père. A accouché notre grand-père. C'est lui qui a fait la sage-femme le soir de l'accouchement. Voilà. Donc, en fait, Marcel, Francis, Gabriel, c'est un couple à trois. C'est un Jules et Jim. Et on entend Gabriel à 96 ans qui continue de son air malicieux à nous dire, vous savez, au fond, on s'est bien marré.
Ouais. Vous dites à un moment donné, décrire Gabriel enceinte m'apparaît comme contre-nature. Sont vos mots?
Oui, c'est vrai que avec Anne, ce qui est amusant, c'est qu'on a toutes les deux eu un enfant pendant l'écriture de ce livre. Et donc, on était bien obligés de se poser la question de cette femme, Gabrielle, qui était tout sauf une femme qui pouvait avoir des enfants et enceinte, qui les a enchaînés. Et c'est vrai qu'on a eu une sorte de dialogue à trois avec Gabrielle pendant toute l'écriture de ce livre. C'est comme si on avait vécu avec elle et qu'on se posait des questions aussi de femmes entre nous.
Alors, la question qui se pose quand même, quand on vous lit, c'est pourquoi être allé chercher du côté de cette femme que vous n'avez pas connue, qui ne vous a pas aimée, pourquoi s'être intéressé à celle qui ne s'intéressait pas à vous? Pour vous citer, parce que c'est ce que vous dites en page 368.
Oui, c'est-à-dire, en fait, pour bien expliquer, elle a abandonné, enfin, notre grand-père s'est suicidé quand notre mère avait 4 ans, et ensuite elle a abandonné notre mère, elle s'en est pas occupée, etc. Donc c'était une figure assez dure dans notre histoire familiale. Et évidemment, nous, donc elle s'intéressait pas à nous, alors qu'on a des cousines qui ont notre âge, hein, qui l'ont connue et qui parlaient de mémé. Nous, on était un peu les vilains petits canards de l'histoire. Pourquoi on s'y intéressait? Pour deux choses. D'abord, pour l'aspect romanesque, oui. Évidemment. Et ensuite, parce que c'est l'histoire de l'amour. On est toujours attiré par ceux qui ne s'intéressent pas à nous, malheureusement.
Et puis sur le roman, précisément, au fond, quand on est romancier, est-ce qu'on choisit vraiment ce sur quoi on veut écrire?
Non, je pense que les personnages s'imposent. Et je me souviens du coup de téléphone de Anne, il y a environ 4 ans. On avait envie un jour d'écrire ensemble, c'était en nous. Elle m'appelle, elle me dit, Claire, on va écrire sur Gabrielle Buffet Picabia. Et tout d'un coup, je suis tombée de ma chaise et c'était une évidence. Elle nous avait choisi.
Anne?
Un jour, par hasard, je lis une biographie de Marcel Duchamp. Et dans cette biographie, je tombe sur le nom Gabrielle Buffet qui revient et qui apparaît comme un personnage extraordinaire, comme un personnage hors norme, qui a une histoire d'amour donc avec Francis Picabia et Marcel Duchamp. Et je me dis, mais c'est fou cette histoire, cette femme, c'est mon arrière-grand-mère, et moi, dans ma propre famille, j'en ai jamais entendu parler. Et là, c'était vraiment notre sujet qui apparaissait.
Celle qui ne choisit pas ses sujets dans cette émission, vous la connaissez peut-être, c'est la culture. Et son actualité qu'on impose, non sans poigne, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 14 septembre?
Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qui désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas.
L'Afrique à la fête. Deux stars africaines figurent parmi les 5 lauréats 2017 des prix Premium Imperiale, genre de Nobel des arts. Le Sénégalais Youssou N'Dour a été honoré en musique, tandis que le Ghanéen El Anatsui domine la sculpture de consécration qui entérine le dynamisme de l'art africain célébré l'année dernière à la Fondation Vuitton, à la FIAC ou au musée Branly Jacques Chirac. Forza Africa.
Les sculpteurs sont des hommes qui se lèvent tôt et comme dit le proverbe, se lever tôt, c'est loin à voir.
Landowski de fond en comble, jeu de mots. Le musée Paul Landowski, consacré au sculpteur français, à qui l'on doit notamment le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, inaugure aujourd'hui un nouvel espace totalement rénové à Boulogne-Billancourt, au programme près de 80 sculptures, dessins ou peintures pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre de cet artiste monumental de l'art déco, Anigo.
Allez vite ton sac, gamin, qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin? Ce que c'est de 4-3-2-1, le 19e roman de Paul Auster, c'est qu'il figure sur la liste des finalistes du Man Booker Prize 2017, le plus prestigieux des prix littéraires britanniques, aux côtés du fringant new-yorkais, 12 auteurs en compétition, la primo-romancière américaine Emily Friedland avec Une histoire des loups, parue en France en août, ou l'écossaise Ali Smith avec sa 8e fiction titrée Autumn, fin du suspense le 17 octobre. Pensons en Aveyron pour célébrer en douceur la fin de l'été. Le festival Heart of Glass, Heart of Gold inaugure aujourd'hui sa 5e édition et branche ses boomers dans la commune de Saint-Amand-des-Côtes. Dans une ambiance champêtre, on attend le rock déjanté de Ponyhawks, l'électro lustré de Zaltan ou la pop classieuse d'Agar Agar, la teuf dès le jeudi. Et ben on dit oui. Les sœurs Berest, invitées de Boomerang ce matin pour leur formidable, je dois dire, livre sur leur arrière-grand-mère Gabrielle Buffet-Picabia, l'histoire d'une femme, on le disait, hors du commun, féministe avant l'heure, qui intègre la classe de composition de la Schola Cantorum, où elle est la seule femme, par exemple. On est en 1900, puis elle part vivre seule une vie de musicienne à Berlin. Elle défie toutes les conventions de l'époque en refusant de prendre un mari. Qu'est-ce qui fait d'elle une femme libre vraiment pour vous? Vous commenciez à en parler, Anne Berest.
Oui, donc effectivement, elle décide, elle est touchée enfant par le don de la musique et elle décide de devenir compositrice. Il faut imaginer ce que c'est être compositrice. Ça n'existe pas, les femmes compositrices. Il y a à la limite des femmes qui peuvent être, à l'époque, musiciennes, violonistes, interprètes, chanteuses, mais compositrices, déjà, c'est une idée folle de vouloir faire ça. Et elle a une chance inouïe, évidemment, le conservatoire n'accepte pas les femmes compositrices, mais elle a une chance dingue, c'est qu'il y a une nouvelle école qui se crée, qui est la Schola Cantorum, et cette école d'avant-garde a un problème, c'est qu'elle a besoin d'argent. Et comme elle a besoin d'argent, elle va accepter des femmes, élèves. À 17 ans, Gabrielle rentre, elle est la seule femme au milieu de toutes ses moustaches. Il faut savoir que quand même qu'elle côtoie des gens comme Eric Satie, Edgar Varèse qui va inventer la musique électronique. Donc c'est pas rien. Et déjà ça, c'est une immense forme de liberté. Et son autre liberté, c'est qu'elle dit « je veux pas de mari, je veux pas d'enfant » pendant 10 ans. Et un soir, en une nuit, elle rencontre un type pour qui elle va décider du jour au lendemain de partir et de tout laisser.
Et de se sacrifier, possiblement.
Alors, justement, pour nous, c'est le contraire du sacrifice. Elle a fait ses 10 ans d'études, elle a bûché comme une malade, elle va être compositrice, et elle rencontre ce type qui est absolument l'inverse d'elle. Il est bruyant, il collectionne les femmes, les voitures, il se drogue,
elle le trouve imbuvable.
Mais justement, sa vraie liberté, c'est un moment donné de balayer tout ce qu'on a construit pour construire autre chose. Parce qu'elle se dit sans doute qu'elle sera une très bonne compositrice, mais elle sera peut-être pas géniale. Alors que si elle se met avec Francis Picabia, à deux, ils seront des génies.
Qu'est-ce qui va la faire changer d'avis finalement sur Francis Picabia? Parce qu'au début, elle aime pas sa peinture.
Alors non, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que lui, à l'époque, donc, c'est une star. Il est très célèbre et il peint à l'impressionniste. Il peint des paysages, des cathédrales. Et elle lui dit, mais... ce que vous peignez, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Alors que lui, c'est une star. Même le président de la République achète ses toiles. Et elle lui dit ça, et en fait, elle va lui faire comprendre que ce qui est intéressant, c'est pas de peindre des paysages, c'est de peindre des émotions.
Oui.
Et là, lui, c'est lui que ça rend dingue. Pourquoi ça le rend dingue? Parce qu'à deux arrondissements de là, il y a un type qui, dans son coin, est en train de faire des recherches, que tout le monde sait qu'il est en train de faire des recherches, et ce type, c'est Pablo Picasso. Et Picabia, qui a une obsession sur Picasso toute sa vie, il va aller en être jaloux. Il sait qu'avec cette femme et son cerveau, il va pouvoir concurrencer Picasso.
Et elle devient, c'est ce que vous écrivez, le cerveau érotique de Picabia. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Cerveau érotique, c'était une formule de Francis. Pourquoi? Parce que dès qu'un homme créateur croisait le chemin de Gabrielle, il tombait à ses pieds. Parce que cette femme, qui n'était pas spécialement jolie, qui n'était pas remarquable, dès qu'elle se mettait à parler, elle avait 30 ans d'avance sur tous ces mecs-là. Et les hommes ne pouvaient plus se passer d'elle.
Alors est-ce que c'est de famille? Est-ce que vous êtes le cerveau érotique de l'autre ou...
Peut-être qu'on avait chacune, en tout cas, exercé voilà, une sorte de...
Non mais simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'elle a un don. C'est-à-dire que les artistes ont le don de créer. Elle a un don très particulier, qui est le don de voir chez les gens ce qu'ils vont pouvoir faire. C'est un don qu'on retrouve chez des grands éditeurs, chez des grands marchands d'art, chez des grands collectionneurs. Elle a ce don-là. Et c'est pour ça que les artistes étaient complètement dépendants d'elle.
Et par son cerveau, vous l'écrivez, hein, elle les met littéralement à genoux, Marcel Duchamp, Guillaume Apollinaire, à une époque où on a plutôt tendance à regarder les femmes comme objets, précisément.
Oui, tout à fait. En fait, ils vont beaucoup évoluer en trio, nos amis Gabriel et Francis. Premier duo, voilà, en rencontrant ce tout jeune homme qui débarque de Normandie, qui est venu rejoindre ses grands frères à Paris, qui est beau à tomber par terre, Marcel Duchamp. Premier trio se forme et ils évoluent ensemble. Ils vont croiser Apollinaire, qui s'est fâché à ce moment-là avec Pablo Picasso, qui est son meilleur ami. Nouveau trio. Et c'est vrai qu'ils évoluent comme ça parce que parfois c'est plus simple de s'aimer à trois.
Ce qui est très beau, c'est cette sacralisation de l'intelligence. Est-ce que vous trouvez, les Sœurs Bereste, aujourd'hui, qu'on vit dans une époque où l'intelligence est valorisée ?
Bah, on va pas vous dire oui, hein.
Pas seulement pour les femmes, d'ailleurs, d'une façon
plus
globale.
Oui, d'une façon générale. Moi, je trouve qu'on est souvent, heurtés, humiliés, fatigués par le fait que l'intelligence aujourd'hui soit souvent maltraitée ou pas considérée comme une valeur. Et je parle de toutes les formes d'intelligence, hein, pas forcément le fait d'être cultivé ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est une époque difficile pour ça.
Puis surtout, on est dans une époque d'images et d'écrans et d'identité virtuelle. Et c'est vrai que parfois, ça empêche peut-être à l'intelligence de circuler, de prendre le temps de circuler.
Se peut-il que l'intelligence se construise à plusieurs, collectivement ? Parce que c'est ça que raconte votre livre aussi.
Oui, tout à fait. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on raconte ce qu'ils ont vécu, c'est Jules et Jim, hein. C'est un Jules et Jim, Marcel, Francis, Gabriel, entre deux génies et une femme incroyable. Mais au-delà du côté de cet amour à trois, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être trois, et Marcel Duchamp dira ça aussi, c'est-à-dire que de cet amour physique va naître une étincelle hors norme.
Et puis des tableaux, tout simplement. C'est-à-dire que quand on regarde cette période-là, les tableaux de Duchamp répondent à ceux de Picabia à Duchamp. Oui. Et en fait, c'est comme des ping-pong et ils se renvoient. À ton tour maintenant, vas-y, épate-moi. Et c'est là que tous ces tableaux naissent. Et Gabriel est au milieu, colonne vertébrale.
Alors, vous me voyez venir, évidemment, sur l'expérience collective de la création.
Oui.
Est-ce que vous pourriez dire qu'à deux, Anne-Claire Bereste, quand vous écrivez à quatre mains, vous vous sentez des ailes ?
Moi, je pense qu'à deux, on a été sans doute meilleur que seul, dans la mesure où peut-être que... En fait, pour expliquer, on n'a pas écrit un chapitre l'une, écrit un chapitre l'autre, et comme ça. On écrivait des pages, ces pages, on se les échangeait, et l'une et l'autre réécrivaient ce que c'était une expérience littéraire.
Oui.
Vraiment, c'était, on voulait faire quelque chose d'expérimental et d'inédit. Et... donc forcément, quand je reprenais un texte de Claire, je lui disais, bon, bah ça, par exemple, ça, je vais le couper, ça c'est pas bon. Ça... Et je pense que, donc forcément, à deux, on enlève les défauts de l'autre et que, sans doute, le livre devient meilleur.
Surtout, on était impitoyables l'une avec l'autre, c'était drôle. Mais c'est comme dans les dîners de famille, on s'envoie des trucs au visage. Bah là, c'était pareil, mais tout le temps, pendant trois ans.
Bon, il y a eu quelques moments de...
Et puis des moments, non, mais aussi des moments très intenses
et
entre nous.
Et des moments merveilleux.
Des moments merveilleux.
On va reparler, alors, de duo, de création et de famille. Juste après, une chanson que j'aime plus que tout et qui ne parle que de ça, Bill Withers' Grandma's Hands, 1971. Vous êtes sur France Inter avec les sœurs Anne et Claire Bereste. Vous écoutez Boomerang.
Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hands, Grandma's hands soothe the local unwed mother. Grandma's hands used to ache sometimes and swell. Grandma's hands used to lift her face and tell her, she'd say, baby, Grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, Grandma's hands. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy, what you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have Grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for Grandma's hand.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Peut-être sont-elles nées, qui sait, sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Elles sont sœurs, elles sont brunes, le teint frais, les yeux bleus piscine façon pulmarine. Pas nées de père inconnu, pas à ma connaissance, au creux des reins, c'est fou, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Mais en même temps, comment en être sûr? Elles sont pas nues ce matin dans le studio, Dieu merci. Pêle-mêle, foulard noué autour du cou, pull confort, veste stricte, bracelet, cheveux attachés, comme si elles s'apprêtaient à bûcher sur une épreuve de 8 heures. On respire, les sœurs Anne et Claire Berest, invitées de Boomerang ce matin pour la sortie de Gabriel, leur premier livre écrit à quatre mains, un livre où, au détour de l'histoire de cette arrière-grand-mère, vous nous parlez aussi peut-être d'abord, on l'entend, de création artistique. Gabriel, elle veut devenir compositrice. Pourquoi ça se fera pas?
Parce qu'un jour, elle rencontre un type avec qui elle va inventer l'art moderne. Ça ne se fait pas parce qu'elle décide de se dire, au fond, à deux, on est meilleur que seul.
Est-ce que pour vous, ça veut dire qu'elle est aussi meilleure théoricienne qu'artiste?
Disons qu'on revient à cette idée de don. On sait qu'elle a été une immense pianiste. On a cherché en vain les partitions de Gabriel pour essayer d'entendre sa musique. Elle a tout brûlé, elle a tout déchiré. Il y a une raison à ça. C'est qu'elle-même devait savoir que son génie résidait dans cette pensée qui partait en permanence de son cerveau vers tous ses créateurs de l'époque.
Et vous, les sœurs Berest, vous sentez plutôt du côté de la théorie ou du côté de l'art, du côté du faire précisément?
Moi, j'ai fait des études très classiques, Hippocagne, Cagne, j'ai étudié la dramaturgie baroque, etc. Et je crois que toute cette théorie, j'ai dû m'en défaire pour devenir écrivain. Parce que tout ce que j'avais accumulé de savoir était peut-être difficile et parfois j'enviais les gens qui en fait étaient libres parce que frais de tout ce bagage intellectuel.
En quoi vous vous complétez? En quoi vos deux approches vous nourrissent en fait, Claire?
Mais disons, je pense qu'on est des écrivains différentes dans nos sujets, mais dans nos styles. Et c'est vrai que ce qui était assez génial quand on faisait notre ping-pong entre nous, et que voilà, parfois c'était aussi difficile, c'est que on n'avait pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Anne, tout d'un coup, elle voit la scène, l'arche des personnages, leur psychologie. Elle dit, mais là, il n'est pas près de la porte. Il doit être à la table, normalement. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à être dans l'atmosphère, dans ce qui est suspendu. Et du coup, à nous deux, eh ben, on essayait de peindre le tableau.
Je me suis demandé, est-ce que les autres arts vous ont nourri aussi? Parce que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les théories révolutionnaires de Gabriel, elles sont justement des théories qui s'appliquent d'abord à la musique. Et vous dites qu'en 1900, la musique a 30 ans d'avance sur la peinture.
Oui, c'est-à-dire que elle, quand elle est donc dans cette école d'avant-garde, la Scola, c'est à un moment donné où les compositeurs sont en train de commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'une note de musique.
Oui.
Est-ce qu'une mélodie, est-ce qu'on pourrait pas décomposer une mélodie? Est-ce qu'on ne pourrait pas donner un titre à un morceau de musique qui ne serait pas celui qu'on attendait avant, etc., etc., nourri par Debussy, Fauré, etc. Et donc, c'est pour ça aussi que, au même moment, Picabia et sa génération, ils sont les enfants des impressionnistes. Ouais. Ils sont, eux, en train de continuer à peindre. C'est un peu comme si, aujourd'hui, on continuait à faire en cinéma de la nouvelle vague.
Alors, voilà. Qu'est-ce que ça voudrait dire, faire de la peinture comme on réaliserait une composition symphonique? C'est une expression que vous employez dans le livre.
C'est vrai que, non mais il faut savoir qu'en fait, Gabriel est le cerveau de Picabia. Et que, à chaque fois qu'on lui pose des questions, c'est Gabriel qui répond. Et ce qui est très amusant, c'est que quand ils vont tous les deux à New York en 1913, lui ne parle pas un traître mot d'anglais, évidemment. Donc tous les journalistes posent les questions à Gabriel. Et Gabriel ne répond que par des théories musicales.
Oui.
Et là, tout d'un coup, la peinture et la musique fusionnent.
Alors, ça serait quoi, du coup, pour vous, je repose ma question, faire de la peinture, comment on réaliserait une composition symphonique?
En fait, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, ce qui est important, c'est comme en musique, l'émotion. Au fond, on va essayer de peindre avec des couleurs ou avec des formes, ce qui correspondrait à l'émotion qu'on peut ressentir, par exemple, quand on écoute de la musique. Donc, au lieu de peindre un vase, on va peindre une tache rouge.
Alors,
par exemple,
ou l'émotion du vase.
Mais alors du coup, la première fois que vous avez vu un tableau de Picabia, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous vous souvenez?
Alors moi, je me souviens que Picabia, c'était quelqu'un de très abstrait quand on était petite fille. On n'avait pas bien compris ni qu'il était peintre, ni que c'était notre arrière-grand-père.
On n'en parlait jamais chez nous.
Voilà, c'était tabou. Et un jour, notre mère prend la voiture et nous dit, les filles, on va à Paris. Donc c'était assez chic. Hein.
On habitait
en banlieue. Et là, on arrive pour le vernissage de l'exposition de Picabia au musée d'art moderne de la ville de Paris. Énormément de gens, très chics. Nous, on était au milieu de ça, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et je me souviens très bien de me balader avec Anne dans ces salles et de me dire, mais c'est notre arrière-grand-père qui a peint tout ce bazar. Énorme vertige.
Et moi, donc Claire, à ce moment-là, c'est là qu'elle comprend qu'on vient de la famille d'un peintre. Moi, c'est différent. Ce que j'ai fait à un moment donné, comme j'entendais ce mot à la maison sans très bien comprendre pourquoi, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de demander à ma mère « Mais qui c'est ce Picabia ?» j'ai pris un dictionnaire, je l'ai ouvert et j'ai cherché à Picabia pour savoir qui était le grand-père de ma mère dont elle ne parlait jamais.
Il faudrait le réécrire ou la réécrire, l'entrée Picabia
à la définition du dictionnaire, oui, on pourrait proposer une nouvelle définition.
Non, dans mon souvenir, elle était pas mal.
Est-ce qu'elle laissait une grande place à Gabriel?
À Gabriel, non, aucune.
Si votre roman, Les Sœurs Bereste, devait être une musique, un morceau, une symphonie, pour reprendre ce parallèle avec la musique?
En fait, ça serait un morceau d'un jeune homme, enfin à l'époque c'est un jeune homme, que Gabriel rencontre quand elle est à Berlin. Et ils ont une amitié amoureuse complètement fusionnelle. Lui, encore une fois, comme les autres, ne peut plus se passer d'elle. Et ce type, qui est beau comme un dieu, qui a les cheveux ébouriffés, un regard d'Apollon, ce type, c'est Edgar Varèse. Et Edgar Varèse, c'est l'inventeur de la musique électronique.
Donc ça serait pas un morceau qui se jouera à quatre mains, collectivement?
Il faudrait essayer de trouver un peu de piano dans cette musique électronique inventée par Edgar Varèse et ça commencerait à ressembler à notre roman.
En fait, ce livre, c'est un travail de composition, on l'a entendu, et de recomposition à partir de fragments existants que vous avez réalisés. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, ce que vous avez en réalité recomposé, Anne Bereste.
Alors, c'est un peu particulier. Donc, Claire parlait de cette maison dans laquelle il y a un grenier avec des archives, des poèmes qu'on a retrouvés, des choses inédites. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plein de fragments et je les ai remis ensemble dans tous les poèmes que Picabia a écrits à Gabriel. C'est-à-dire que toute sa vie, Picabia lui écrivait des lettres, des poèmes, en cachette de sa nouvelle femme. Donc il était obligé de faire attention parce que sa nouvelle femme était très jalouse de Gabriel. Et voilà, et à partir de ces mots-là, on a recomposé ça.
On vous écoute.
Gabriel, tu sais, les femmes, il ne faut pas chercher à les retenir. C'est comme les cheveux. On peut un peu retarder leur départ, mais ils finissent toujours par s'en aller.
Gabriel, tu ne réponds pas au téléphone. À quelle époque reviens-tu? Paris est triste sans toi. Les amis autour de moi me donnent l'impression qu'il n'y a personne.
Gabriel, la lune aux yeux noirs, j'avais beaucoup de choses à te dire, mais j'ai tout oublié. Mon ami, tant de jours sans te voir, j'ai commencé à peindre, pour que tu me conserves ton amour, mais tout entier.
Ce qu'il nous faudrait, c'est que nos erreurs franchissent notre science dans les ténèbres intérieures. La vie n'est pas le contraire de la mort, pas plus que le jour n'est le contraire de la nuit. Ce sont peut-être deux frères jumeaux qui n'ont pas la même mère.
Commencement du monde, toi ou moi. Fin du monde, je n'ai plus d'encre. Heureusement pour toi, je t'embrasse, Francis.
Merci infiniment, Anne-Claire Bereste, pour ce bel échange à quatre mains, à deux voix. Gabriel est publié chez Stock. C'est absolument passionnant. Et je précise par ailleurs que vous serez demain à 17h aux rencontres Bibliothèques Idéales de Strasbourg. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Un seul et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va et tu le retrouveras. De s'amour. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Oui, pas et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va et tu le retrouveras.
Cet air, M. Fatoumata Diawara et Toumani Diabaté sur France Inter, quel air!